Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Après ce qu'il est convenu d'appeler les lois mémorielles, c'est-à-dire la loi Guesso réprimant le négationnisme jusqu'à la reconnaissance du génocide arménien en passant par la loi Taubira condamnant l'esclavage, un certain nombre d'historiens se sont émus de ce qu'ils perçoivent comme une atteinte à leur liberté scientifique. Certains ont même parlé, je cite, de « stalinisme de la pensée » ou de « soviétisation de l'histoire ». Au nom de quoi, pense-t-il, en effet, le législateur pourrait-il porter des jugements historiques ? On pourrait aussi retourner l'argument. Au nom de quoi des historiens pourraient-ils prétendre se soustraire à la loi commune ? Cet appel pour la liberté de l'histoire, comme il se dénomme, invite donc à repenser les rapports entre les historiens, la politique et le droit, ou plus exactement, à les repréciser. C'est ce que propose Marc-Olivier Baruc dans un ouvrage qu'il vient de publier aux éditions Talendier et qui porte précisément pour titre « Des lois indignes, les historiens, la politique et le droit ». Marc-Olivier Baruc est chercheur, directeur de recherche au CNRS et il a publié de nombreux ouvrages. Parmi eux, je citerai « Servir l'État français, l'administration en France de 1940 à 1944 » chez Fayard. Et puis aussi, il a organisé un colloque qui a fait date, intitulé « Faire des choix, les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures 1933-1948 », colloque qui a été inauguré, ouvert par le président de la République, qui va être publié bientôt aux éditions de la documentation française. Marc-Olivier Baruc, bonjour.
Bonjour.
Alors, je recommencerai par le nom de quoi parle-t-on ? On parle de loi mémorielle, certains parlent de loi historienne, de loi compassionnelle. Qu'est-ce que c'est exactement, si vous acceptez que ce terme, que cette dénomination ?
Dans le livre, il apparaît avec des guillemets. Oui. Les guillemets, c'est difficile à la radio.
Donc, au début, après...
Des raisons, le papier est cher, donc on va faire des économies, on va enlever ces guillemets. C'est un fourre-tout qu'on a appelé comme ça, d'ailleurs, à géométrie variable. C'est apparu comme tel vers quand cette pétition qui s'est vite appelée « Liberté pour l'histoire » a été signée, c'est-à-dire fin 2005. Les historiens qui se sont émus de ce texte évoquaient deux lois, celles que vous avez citées, deux lois de 2001, celle qui disait « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », loi de janvier 2001, et puis la loi dite Taubira.
La France, c'est pas le Parlement.
La France, c'est ni le gouvernement, ni le Parlement, c'est la France.
C'est ça.
Mais peut-être que le peuple souverain et ses représentants ont le droit de parler au nom de la France, à mon sens, ils sont là pour ça. Et l'autre, la loi Taubira, du 21 mai 2001, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, etc., est un crime contre l'humanité. La troisième qui était visée, était la loi appelée Mekachera, c'était le nom du ministre des anciens combattants de l'époque. C'était une loi qui portait diverses dispositions relatives à la situation des Français rapatriés d'origine musulmane, c'est-à-dire ce que l'on appelle les harkis. Et un amendement parlementaire a rajouté un bout de phrase qui disait « Les programmes scolaires reconnaissent le rôle, je cite en toutes lettres, le rôle positif de la présence française outre-mer. »
Ce qui a donné lieu à soulever. Alors
cette loi, donc il y a eu des allers-retours. Voilà, c'était au fond, techniquement, c'était facile à supprimer puisque c'était d'ordre réglementaire. C'est ce qui fut fait finalement. Entre-temps, il y avait eu polémique. Et donc, trois de ces lois, c'est les trois que j'ai citées, utilisent le mot « reconnaître ». Donc, ce sont des lois, d'une certaine manière, de reconnaissance qui posent, qui sont des textes par lesquels le Parlement, le peuple français, pose une reconnaissance. Et on renvoie donc à des épisodes antérieurs, notamment ceux de repentance de la fin des années 90. La loi Guesso, c'est tout à fait différent. Les auditeurs sont juristes, ils savent bien. La loi Guesso, c'est une loi pénale. C'est une loi qui insère dans la loi de juillet 1881, donc une vieille contenu loi normatif. Républicaine, voilà, et qui insère, donc cette loi sur la liberté de la presse, qui insère des interdictions très précises. Il est interdit en France de nier ce qu'on appelle depuis Claude Hanzmann la Shoah, qui est définie juridiquement comme les crimes contre l'humanité posés comme tels par l'accord international de Londres d'août 1945. Et donc mettre ensemble trois textes, donc l'un vite abrogé, enlevons-le, mais des lois de reconnaissance qui sont en fait des prises de position, des résolutions. Mais en 2001, le Parlement français n'avait pas le pouvoir de prendre des
C'est un des problèmes, c'est qu'en réalité, c'est avant tout un acte politique d'origine parlementaire.
C'est un acte politique, c'est un acte solennel qui est une loi. Alors les juristes discutent, est-ce qu'une loi est nécessairement normative ou pas. Là, il faudra entrer dans la théorie du droit.
Là, notre débat est vraiment celle qui oppose ou au moins met en tension les historiens et les juges. Et les historiens disant, et je vais me faire l'avocat du diable en disant, mais bon, je suis spécialiste de la déportation et de l'extermination des tziganes, et finalement, je trouve que le chiffre ne correspond pas du tout à ce qui est annoncé par la communauté tzigane, est-ce que je suis sous le coup de cette loi ? C'est un peu l'inquiétude qui pointait dans l'appel à la liberté de l'histoire.
Qu'est-ce que c'est ne correspond pas du tout ? On est là dans de la marge. Si c'est pour dire ce que les cours suprêmes ont appelé la minimisation outrancière, qui est une sorte de négation amoindrie, à ce moment-là, on est dans de la négation. Et la négation est effectivement interdite par le droit français. Alors, à charge pour chacun de se défendre et d'exposer les faits. Tout ça se passe devant un juge. Et c'est au juge, sous le contrôle de ces cours suprêmes multiples, puisque la loi Guesso est constitutionnelle, la Cour de cassation n'a pas voulu en faire l'objet d'une QPC. La Cour de cassation a décidé que la question n'était pas sérieuse au sens juridique. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer. La Cour européenne des droits de l'homme a validé le dispositif français à plusieurs reprises. Donc il me semble, et là on est dans, évidemment, juger c'est balancer et faire la loi c'est trancher, mais il me semble que l'immense masse de jurisprudence, j'ai évidemment pas tout lu, d'autres l'ont fait plus sérieusement que moi. J'ai cité quand même un arrêt assez long de la Commission européenne des droits de l'homme. Mais
vous avez fait aussi du droit comparé, je dis ça pour nos auditeurs, parce que c'est intéressant pour dépassionner, pour refroidir ce débat franco-français. Il faut regarder aussi ce qui se passe à l'étranger, notamment en Allemagne. Et ce que vous dites est très intéressant parce que ça nous met sur le chemin d'un critère sur lequel, à mon avis, on n'insiste pas suffisamment, qui est le critère intentionnel.
Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la loi Guesso de 1990 ? Et donc le fait, donc je termine, j'ai un peu l'esprit de l'escalier, mais le fait pour les historiens d'avoir inclus la loi Guesso dans la pétition, même si ensuite...
Oui, mais après ils ont dit...
ils ont dit sans le dire, parce que si on regarde sur le site, l'amalgame malgré tout, ou la confusion, ou le fourre-tout, utilisez le mot que vous voulez selon le degré de malignité qu'on mettra dans l'intention des auteurs de la pétition, mais le mal était fait. La loi Guesso, elle ne déclare pas la vérité. Elle ne dit pas c'est la vérité. Elle dit il est interdit en France de dire cela. C'est une atteinte évidente à la liberté, une limite plutôt à la liberté de la liberté d'expression.
C'est ça. Alors vous faites
mais la liberté d'expression ne se conçoit pas sans ses limites.
J'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que vous avez parlé de liberté d'expression et pas de liberté d'opinion. Vous faites donc une distinction entre ces deux idées.
Bien sûr, on pense ce que l'on veut quand on l'exprime, quand on le rend public. Moi, j'écris un livre, je rends ma pensée publique. Elle est ouverte non seulement à la critique, mais s'il le faut, aux procédures judiciaires. Si quiconque est diffamé, on verra. Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas ce que j'ai entendu faire, en tout cas. Évidemment, l'opinion, la liberté d'opinion est absolue. On peut penser tout ce que l'on veut. On peut se le dire à soi-même. On ne peut pas le dire publiquement.
Oui, mais alors c'est-à-dire qu'en fait, quand on écrit, on s'expose et on participe à l'espace public. Mais alors, donc si on reste sur cette question d'intention, je vais continuer de me faire l'avocat du diable. et à soutenir ce point de vue. Je ne sais pas si c'est diabolique, mais lorsque la loi Taubira dit reconnaît que la traite transatlantique constitue un crime contre l'humanité, il y a eu d'autres traites qui n'étaient pas transatlantiques. Comment est-ce que, en ajoutant cette épithète transatlantique, la loi ne fait pas une discrimination qui, alors pour le coup, peut être critiquée par des historiens de l'esclavage.
Oui, mais il n'y a pas de problème à critiquer cela. La loi, alors si on était vraiment d'un pointillisme extrême, elle ne dit pas que les autres ne le sont pas. Oui. Elle ne dit pas c'est le seul. Mmh. Mais évidemment, si des historiens viennent dire attention, la loi a vocation à être amendée, il conviendrait d'inclure toutes les traites, y compris celles qui ne sont pas le fait des marchands et des colonialistes du XVIIe siècle, puis du XVIIIe,
intra-africaines,
certes, et on le dit, et on ne tombe pas sous le coup de la loi. Cette loi est, d'une certaine manière, une résolution. Elle dit les choses. Et lorsqu'il y avait eu grande émotion en 2005, parce qu'un historien, précisément, hein, on peut citer son nom, il est connu, Olivier Pétré-Grenouillot, avait été attaqué parce qu'il avait eu des propos qu'une association avait jugé blessant ou maladroit. Elle l'avait attaqué en, je ne sais plus si c'était en diffamation ou en responsabilité, mais en tout cas, les poursuites avaient été abandonnées. Évidemment, ce n'est pas agréable d'être attaqué, d'être traîné devant un tribunal, de devoir se défendre. J'allais dire, si j'étais absolument cynique, je dirais que ça fait que l'on parle de vous. Je ne le suis pas tout à fait. J'allais dire, c'est le lot.
C'est des risques du métier.
C'est des risques du métier. Oui. Ce métier a beaucoup d'avantages. Il permet d'écrire, parfois d'être publié. Quand on est publié, on est par définition public.
C'est ça. Mais alors, ça veut dire qu'il y aurait une vérité des historiens et une vérité des juges qui ne correspondraient peut-être pas exactement l'une à l'autre.
Je ne crois pas qu'il y ait de vérité des juges. Je ne crois pas d'ailleurs non plus qu'il y ait de vérité des historiens. Il y a une tentative de se rapprocher de ce qui fut. Et on tente de le construire, de l'exposer. Ça m'est arrivé dans une instance mixte qui était la cour d'assises de la Gironde face au fait de reprocher à Maurice Papon. Hein. Moi, je suis né 12 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, par définition, je n'étais pas à Bordeaux à ce moment-là. J'avais essayé quand même de reconstruire ce qui s'était passé. Il y avait de débats assez houleux, un peu pénibles entre historiens. Et le paradoxe, je crois que je le dis quelque part en note, c'est que j'ai été, entre guillemets, là, oui, qu'on les entende, ces guillemets, blanchis, oui, par ça. Maurice Papon, qui a dit, mais oui, c'est à peu près comme ça que les choses se sont passées. Donc cette tentative de reconstruire un passé, qui est le fondement de l'histoire, hein, un récit vrai, écrit Paul Venn. Donc cette tentative d'écrire un récit vrai n'est pas le métier du juge. Le métier du juge est de constater s'il y a ou non infraction. Je ne parle que de la loi Guesso. Les autres ne sont pas des lois que le juge pénal ou que quelques juges d'ailleurs à connaître.
Le juge, il va examiner s'il y avait l'intention de nuire, dans le fond. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire il y a la vérité énoncée ou contestée, mais il y a l'esprit dans lequel on le dit.
On est dans du droit pénal. On est dans du droit pénal. Donc le droit pénal, d'abord, il est d'interprétation stricte. Hein, donc il faut que les choses soient clairement dites, d'où la nécessité de faire évoluer les lois. La loi Guesso, elle est votée en 1990, mais en 1972, on vote déjà une modification de l'article 24 de la loi sur la presse pour interdire, c'est un sujet hélas d'actualité, les propos racistes. Et qu'est-ce qui se passe en 1972? Donc le général de Gaulle est mort quelques mois plus tôt, hein, à la fin de 1970. Mais si j'ose dire, le gaullisme est toujours dans les têtes. Et quand je dis le gaullisme, ce n'est pas le mouvement partisan qui s'appelait à l'époque l'UDR. Mmh. C'est vraiment le combat mené contre le nazisme et contre les idéologies totalitaires. Et à ce moment-là, l'Assemblée nationale, qui est de droite, hein, le Premier ministre et Jacques Chaban-Delmas, le ministre de la Justice qui fait voter cette loi, et René Pleven, tous les deux compagnons de la Libération, eh bien cette loi, elle est votée et les débats, c'est... Alors si des étudiants m'écoutent, il faut absolument aller lire les débats parlementaires qui sont en ligne sur les sites de chacune des deux assemblées, c'est absolument formidable. Hein, c'est
de précision, de culture.
C'est de précision, et puis on entend véritablement l'indignation face au racisme de l'ensemble. Alors symboliquement, l'Assemblée nationale charge le Benjamin d'être le rapporteur de cette loi, et cette loi est votée à l'unanimité. Et tout le monde demande, tous les représentants de tous les partis demandent un vote à l'unanimité. et au nom, en se souvenant de ce que fut le combat contre le nazisme. En 1990, c'est tout à fait différent lorsqu'on vote la loi Guesso.
Oui, et quand vous expliquez ce changement d'ambiance, ça, c'est une question qui s'adresse à l'historien, oui, l'historien du temps présent. C'est-à-dire que là, on assiste véritablement, et encore une fois, malheureusement, c'est d'actualité, à un renversement de la perception à la fois du rôle de la politique, voire du politique, qui est de déclarer des choses, qui est de se définir en portant un jugement moral sur soi et sur son propre
et
passé.
Et de définir ce que la société peut accepter ou pas.
Exactement, et qui est le propre d'un acte politique, d'un geste politique, et c'est ce que vous rappelez à la suite d'un excellent article de Yann Thomas, du regretté Yann Thomas, où il disait les juges déclarent une vérité, ils ne la trouvent pas, ils la déclarent.
Le législateur la déclare et le juge la recherche. Je crois que ce qui s'est passé, c'est un nom, hein, c'est l'affadissement de ce souvenir de Deuxième Guerre mondiale et concomitamment, mais évidemment, ce n'est pas juste une simultanéité, la montée du négationnisme, la réapparition, un des éléments déclenchants de cette réflexion qui conduit à la loi Guesso. Et cette loi Guesso aurait pu s'appeler la loi Pasqua, parce que Charles Pasqua avait préparé un texte entre 86 et 88, quand il est ministre de l'Intérieur pour la première fois. Ce qui s'est passé, c'est que donc l'élément déclenchant, c'était cette interview épouvantable d'Arquier de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives de Vichy, le deuxième, celui de 42 à 44, qui est un fanatique de l'extermination, qui est un nazi français, et qui déclare, il est réfugié à Madrid, on ne l'a pas tellement embêté, et Jacques de Rogy de l'Express va l'interviewer, il dit oui, à Auschwitz, oui, on a gazé Auschwitz, bien sûr, on a gazé des poux, on a gazé que des poux, en disant, vous comprenez, ces gens-là qui arrivaient, on allait les installer comme ça, mais leurs vêtements étaient un peu sales, puis vous savez, les juifs sont toujours un peu pouilleux, et donc on a bien dû gazer les poux qui étaient là. Sauf que là, on est dans de la métonymie horrible. Pour lui, les juifs sont eux-mêmes des poux.
Bien sûr. Donc bien sûr. Et indignation.
Indignation, tentative de poursuite, et en même temps des attaques ignobles, d'une ignominie qu'on ne peut pas qualifier parce qu'elle est inqualifiable, contre Simone Veil, notamment de la part de Claude Autant-Lara, tentative de poursuite et pas de poursuite. On est dans du droit pénal, interprétation stricte.
Parce qu'il n'y a pas de loi à disposition.
Et il faut une loi. Et alors quand ensuite, 15 ans après, 10 ans après, 12 ans après, 20 ans après, on dit oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans du politiquement correct? Est-ce qu'on ne nous interdit pas de faire l'histoire? Mais on interdit aux historiens négationnistes de faire l'histoire. Mais bon, on ne va pas citer les noms de tous les signataires. C'était une vingtaine au départ, ils ont été rejoints par de très nombreux historiens, de professeurs d'histoire en quelque sorte. Aucun de ces gens-là, que je sache, n'est négationniste. Que la pétition soit récupérée ensuite par le Front National, certes, mais on fait un peu attention quand on sait qu'on va hurler avec les loups. Il y a des loups avec lesquels moi, je n'aurais pas envie de hurler.
Alors oui, et d'ailleurs, c'était une source d'embarras, mais il y a un argument qui est souvent employé, qui est l'argument de la porte ouverte. C'est-à-dire, si on fait cela, on va ouvrir la porte à d'autres contrôles. Les Anglais ont une autre, en la langue anglaise, une autre métaphore, qui est celle de la pente glissante.
Slippery slope.
On va se mettre sur une pente glissante. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument de dire, tout ce que vous dites est très convaincant s'agissant de la Shoah, s'agissant de choses aussi importantes et essentielles à nos yeux, mais est-ce que demain on ne va pas avoir des lois prenant position sur des choses
qui diront que Napoléon était japonais et qu'il est interdit de nier que Napoléon était japonais? C'est là, me semble-t-il, complètement méconnaître les pratiques professionnelles et les procédures. C'est imaginer que le législateur est fou ou est sujet à toutes les démagogies. C'est imaginer qu'il n'y a aucun contrôle de constitutionnalité. C'est imaginer que le juge est un farceur. Alors, les historiens, ou disons les savants, eux auraient une éthique, une déontologie, seraient atteints par telle et telle chose. En revanche, les juges, les législateurs, les hommes politiques, tout ça serait des pantins soumis à tous les vents de l'opinion. C'est extraordinairement méprisant, d'une part, et c'est aussi, et j'allais dire surtout, extraordinairement faux.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on rapporte l'attitude des historiens à celle qu'on remarque dans la société française, et j'allais dire qu'on ne remarque que dans la société française, qui est cette défiance, cette volonté d'avoir un statut dérogatoire à l'égard de la loi commune. On le voit chez les artistes, où il y a une sorte de revendication d'immunité, d'immunité en disant on ne doit pas, parce que nous sommes des créateurs, des créatifs, des artistes, nous ne devons pas répondre. On le voit chez des médecins, des chercheurs, en disant la liberté de recherche doit être totale, c'est pas du tout le rôle du législateur de se mêler de ces questions auxquelles il n'entend rien. Comment, quel regard vous portez? Alors, vous êtes un spécialiste de l'administration française, vous avez fait votre thèse là-dessus, vous êtes vous-même haut fonctionnaire, donc vous connaissez de l'intérieur aussi cette culture de cette culture française. Quel commentaire cela vous inspire?
À mon sens, c'est pas tout à fait les mêmes perspectives du côté des historiens ou des créateurs, disons, et du côté de l'administration. Le rapport de l'administration au droit et à la loi, tel qu'il a été forgé, même inconsciemment, sous la Ve République, est sans doute un rapport de subordination extrême de la loi et du législateur
mais à des juridictions administratives. C'est-à-dire qu'on accepte la juridiction du Conseil d'État, qui est extraordinairement respectée, à juste titre d'ailleurs, et on n'imagine pas des gens contester la juridiction du Conseil d'État, entre parenthèses. C'est quelque chose que l'on ne voit pas en France.
C'est encore un autre sujet, qui est le rapport de doctrine à jurisprudence des professeurs de droit au Conseil d'État, sujet intéressant.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème spécifique français à l'égard de la justice judiciaire?
Oui, voilà mais moi je dirais, si les créateurs, les historiens... Il y en a qui aimeraient bien être débarrassés de la loi, les gens qui font des expériences, du génie génétique, là. Au contraire, on est dans des domaines extraordinairement encadrés. Mais au fond, quelle est cette contrainte qui pèse sur, reprenons le cas qu'on connaît, l'historien, une contrainte de responsabilité? L'historien, dans cette pétition, demande à être en quelque sorte irresponsable. C'est une pétition d'irresponsabilité. C'est étonnant comme posture. Comment peut-on à la fois regarder ce que furent les sociétés, ce que fut la marche des hommes dans le temps, et donc d'une certaine manière, surtout pour l'histoire contemporaine, ce qu'elle devient. L'histoire du XXe siècle nous conduit tout naturellement au XXIe, donc poser un regard, c'est-à-dire un jugement. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, l'historien est un juge. Quand je prends mon stylo et que j'écris « Le maréchal Pétain, ce jour-là, commit une terrible erreur », est-ce que je ne juge pas l'action de cet homme et de son gouvernement? Et donc, on porte des jugements et en échange, une sorte de privilège, une immunité comme ça. Non, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond. Ou bien alors, ça revient à une posture pré-positiviste, où on est une sorte d'historien à la Chateaubriand.
Enfin. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné une manche devant le Conseil constitutionnel récemment, parce que le 7 juin 2012, donc il y a un peu plus d'un an, ils ont réussi quand même à faire reconnaître une partie de la légitimité de leurs revendications?
Pas du tout. Vous parlez de ce triste épisode de la pénalisation du génocide arménien.
C'est ça.
Oui, où, à mon sens, les victimes, les populations arméniennes, donc les descendants des victimes, les familles, ont été véritablement instrumentalisées par le politique très généralement. D'ailleurs, il faut le suivre d'assez près.
Je renvoie d'ailleurs tous nos éditeurs à la lecture minutieuse de votre livre.
Aussi,
quel
aussi.
Mérite, bien sûr. Mais quel mérite de livrer des longs passages législatifs de la commission Accoyer, de longs passages qui vont vous permettre de juger sur pièce, en quelque sorte. Vous apportez les pièces, comme dans un beau dossier.
Oui, moi je crois qu'il faut, regarder. Et alors si on revient très rapidement sur le cas arménien, ça m'étonne, sachant que le gouvernement de l'époque, qui était le dernier gouvernement de François Fillon, avait, par la voix de son garde des Sceaux, devant le Sénat, 6 mois plus tôt, exposé, et le garde des Sceaux, on peut imaginer, s'il n'est juriste lui-même, qu'il a des services assez solides avec lui, direction des affaires civiles, par exemple. On doit connaître un peu le droit à Place Vendôme, j'imagine. On peut l'espérer. Et donc, il y avait un argumentaire assez convaincant pour rejeter cette proposition. Et 6 mois plus tard, le même gouvernement appuie la proposition. Alors, on ne fait pas au garde des Sceaux, Michel Mercier, l'affront lui demander. Et donc, c'est un autre ministre qui est pas très fort, qu'il me pardonne, mais que ses arguments ne sont pas percutants. Et on sait que l'on va à la catastrophe constitutionnelle.
Marc-Olivier Baruch, vous êtes historien, je l'ai rappelé, vous travaillez sur l'historiographie, quand on écrit ou on revendique l'histoire. Comment vous interpréteriez alors ce mouvement? Parce qu'il caractérise, on a parlé de la société française qui a changé depuis 20 ou 30 ans dans un bon ou un mauvais sens. Il y a aussi quelque chose, une réaction de ces historiens-là.
Sûrement. Sûrement,
comment, en quelques mots, comment est-ce que vous l'interprétez?
Alors, on peut appeler ça un malaise dans l'identité historique, si on veut, ou, qui est sans doute le reflet d'un malaise dans l'identité nationale. À supposer, cette notion d'identité nationale, elle est à manier avec plus de précaution, me semble-t-il, qu'on ne l'a fait, y compris chez les historiens. Hein. On a trois historiens qui se succèdent ou qui se chevauche d'une certaine manière au sein de l'Académie française, Fernand Braudel, René Raymond, Pierre Nora, des parcours personnels, historiographiques, des manières d'écrire l'histoire, des positionnements personnels et politiques très différents. Et en même temps, me semble-t-il, les trois, et donc on revient là aux années 1980, hein, Pierre Nora, c'est le pape des lieux de mémoire, oui. Donc les trois ont une sorte de nostalgie dite ou sentie d'une sorte d'histoire nationale.
Assumé,
il me semble qu'on est dans les lieux de mémoire, on est dans les lieux de la mémoire nationale, et ça s'exacerbe ces dernières années, disons au XXIe siècle, par une sorte d'agacement ou de rejet de ce qui est nommé la victimisation et le communautarisme. Je pense qu'on peut attendre un tout petit peu plus. Moi, on pourrait attendre plus d'empathie.
Mais alors, au-delà de l'empathie, il y a cette dimension de, il ne souffre pas de voir un État baisser la tête, en quelque sorte. Cet acte de repentance, cette sorte, on pourrait dire, de honte éprouvée à l'égard de son propre passé, il y a quelque chose qui gêne.
Est-ce que c'est... Alors, évidemment, si on dit que c'est de la honte et de
honte,
l'abaissement...
Le mot est trop fort,
bien sûr.
Le sentiment
de battre sa coulpe.
Il y a une souveraineté flétrie.
Oui, alors bon, là ensuite on entre dans une sorte de philosophie de l'État. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que cette personne? Est-ce que c'est seulement le souverain?
Est-ce que ce n'est pas la question que posent ces lois mémorielles et la réaction aussi négative qu'elles ont eue? Est-ce qu'elles n'ont pas heurté une certaine conception de la souveraineté comme une souveraineté identifiée à la majesté, à cette souveraineté sur l'histoire, et qui n'acceptait pas une évolution qu'on constate dans beaucoup de démocraties, de ce qu'on pourrait appeler pompeusement cette détotalisation de l'histoire par les victimes, c'est-à-dire cette idée qu'effectivement un État peut faillir et que le rapport à l'autorité a profondément évolué au cours de ces trois dernières décennies.
Est-ce que ces historiens ne se font pas une certaine idée, pour reprendre les mots de Général de Gaulle, toute ma vie je me suis fait une certaine idée d'eux, est-ce qu'ils ne se font pas une certaine idée de la nation et qui est une idée, et c'est ça qui est paradoxal quand même, et à mon sens c'est pas tant la nation que l'État. Moi je suis historien de l'État, historien des pratiques d'État, historien des pratiques administratives, je crois qu'il faut véritablement les creuser pour les comprendre, et les comprendre, moi j'ai écrit tout un livre sur Vichy, j'ai tenté de comprendre ce qui s'est joué là, et il ne se joue pas que des choses basses ou infâmes. Ceux qui sont à Vichy croient à quelque chose. L'erreur est absolue, mais il faut aller comprendre. Et pour comprendre, il faut regarder. Et il faut regarder les pratiques, il faut comprendre les pratiques, il faut comprendre ce qui est dans l'État, il faut comprendre pourquoi De Gaulle, lui, construit sa légende et pourquoi ses successeurs ne peuvent pas la construire de la même manière. Et l'époque Mitterrand est fascinante pour ça. Parce que Mitterrand est à la fois... fasciné là, par l'image du gaullisme et en même temps avec un parcours tout à fait différent. Donc il faut véritablement croiser, me semble-t-il, l'histoire, la politique et le droit.
Oui.
Et là, je ne dis pas que moi seul ai compris, mais il me semble que ça éclaire autrement ces débats qui peuvent rester quand même extrêmement théoriques.
Hein. C'est ça.
Dans notre pays, on adore les pétitions dans le monde, dans l'idée.
Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous ne portez pas de jugement moral a priori sur les pratiques de l'État administratif. Vous cherchez à les comprendre. Et c'est en les comprenant, en ce qu'elles sont des pratiques effectives de gens qui ne sont pas tous identifiés au commissariat aux questions juives.
Oui, mais je veux dire, si on est sur une sorte de théorie du droit, et on peut penser aux travaux de Michel Tropper, par exemple, le droit, c'est le droit, la loi, c'est la loi. Et ensuite, on regarde ce qu'il y a dans cette
bien
loi.
Sûr,
mais c'est la loi au départ. Et pourquoi est-ce qu'on fait de telles lois? Et donc, j'allais dire, d'une certaine manière, si on regarde ça, on a aussi le droit de renvoyer la balle à ceux qui disent « nous clamons un privilège d'irresponsabilité » et « pourquoi fait-on de telles pétitions ?»
Eh bien, Marc-Olivier Baruch, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Des lois indignes, les historiens, la politique et le droit, chez Taillandier. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Myriam Guillot. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver toutes ces références sur la page du Bien commun et réécouter cette émission pendant 3 ans, la télécharger même pendant 1 an. La semaine prochaine, je recevrai Zoya Svetova et on reviendra sur la question du procès des Pussy Riot et plus généralement sur la situation de la justice en Russie.